La première explication, c'était basé sur l'accumulation du capital. Donc les premiers modèles de croissance, Harrod Domar, Solow, c'était des modèles basés sur l'accumulation du capital. C'est-à-dire, voilà, on produit de l'output avec du capital, et ce qui fait croître l'économie, c'est que le capital s'accumule à cause de l'investissement, et l'investissement, c'est l'épargne, et l'épargne, c'est une fraction du revenu qui finance. Et c'est comme ça que donc c'est comme ça qu'on finance que la croissance. Et, mais seulement Solow a montré que sous des hypothèses raisonnables dans son article de 56, eh bien, il y a des rendements décroissants. On sait qu'il y a des rendements décroissants à l'accumulation de capital, et à partir de ce moment-là, eh bien, la croissance par le capital, par l'accumulation, elle a ses limites, et qu'à un moment donné, le PIB par tête cesse de croître. Donc, il faut du progrès technique pour avoir de la croissance de long terme. Et donc, si vous voulez, après, les recherches se sont penchées sur comment endogénéiser, en comprendre le progrès technique, d'où il vient. Et donc, moi, l'approche schumpeterienne que j'ai développée, c'est justement ça, c'est prendre pourquoi schumpeterienne, parce qu'elle était d'inspiration schumpeterienne. Schumpeter avait dit que l'innovation était une source très importante de croissance. Il n'avait pas de modèle, il n'y avait pas d'analyse empirique. Et moi, ce que j'ai fait avec Peter Howitt, puis après avec d'autres, c'est de développer un modèle basé sur trois idées importantes. Un, la croissance de long terme, c'est l'innovation. Deux, les innovations ne tombent pas du ciel, elles résultent de politiques et d'institutions qui favorisent l'innovation, qui affectent la croissance parce qu'elles affectent l'incitation à innover. Et trois, la destruction créatrice, c'est-à-dire que le nouveau remplace l'ancien. Il y a un conflit entre le nouveau et l'ancien. Donc il y a tout ce qu'on peut appeler une économie politique de la croissance. Typiquement, les innovateurs d'hier deviennent des intérêts acquis, des intérêts établis d'aujourd'hui, qui typiquement vont essayer de faire barrage aux nouveaux innovateurs qui mettent en cause leurs prérogatives. Bah, écoutez, donc certains, donc les gens qui faisaient des modèles basés sur l'accumulation de capital disaient il y a des pays qui épargnent plus que d'autres, il y a des pays qui ont un stock de capital différent, mais ça ne rend pas compte, ça ne rendait pas compte de la diversité des productivités et des taux de croissance entre pays. Et donc c'était pas des. Et puis surtout que Solow, ça prévoyait la convergence, en fait, donc on aurait dû voir que tout le monde convergeait, et c'est pas ce qu'on observe. Donc il a fallu une. Maintenant, si vous voulez, on comprend beaucoup mieux que c'est vrai qu'il y a des différences de taux d'épargne, c'est vrai qu'il y a des différences de taux d'innovation entre pays, mais derrière, il y a des différences institutionnelles et de politique. Et donc, les institutions deviennent un élément très important, c'est-à-dire qu'il y a des pays où les droits de propriété sont mieux protégés que d'autres, il y a des pays où on organise les marchés du travail, le marché des biens et services différemment, les systèmes éducationnels diffèrent. Et alors ça peut être aussi des raisons des cultures, des normes culturelles, ça peut être des rapports de classe, hein, qui font que qui déterminent ces choses-là. Et donc, évidemment, il faut aussi comprendre comment les institutions évoluent. Donc derrière, comprendre la différence, vous voyez, de productivité ou de taux de croissance, ça réfère à des différences plus profondes, puisque donc, si on a le modèle schumpeterien, on dit que c'est tout ce qui incite à l'innovation qui va influencer le taux de croissance. Mais derrière ces incitations, il y a peut-être des choses plus profondes qui expliquent pourquoi elles sont différentes d'un pays à l'autre. Alors, si vous voulez, l'aspect de chez Solow qui a été reçu un écho favorable, c'était sur la convergence. Je pense que le modèle de Solow, l'intérêt, c'était de montrer que sans progrès technique, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme. Si vous voulez, c'est un peu un modèle de référence, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le théorème de Modigliani-Miller en théorie de la finance d'entreprise. Vous voyez, on dit sous certaines conditions, ça n'est pas important si on finance l'investissement par la dette ou les actions. Mais pour moi, le modèle de Solow, c'est un peu le statut Modigliani-Miller. Mais il y en a des gens qui l'ont pris à la lettre et qui ont essayé de dire, voilà, on peut expliquer. Il y a par exemple Barrow, gens comme Barrow ont essayé de montrer qu'il y avait de la convergence conditionnelle à l'intérieur des États-Unis, par exemple. Des États suffisamment semblables tendent à converger à un certain taux. Et donc, on disait, voilà, le modèle Solow, c'est pas mal parce que ça rend compte de la convergence. Mais enfin, comme ça ne rend pas compte de la diversité des taux de croissance d'un pays à l'autre, ça ne rend pas compte pourquoi il y a des pays qui convergent, des pays qui ne convergent pas, pourquoi il y a des pays qui commencent à converger, qui s'arrêtent à mi-chemin. La relation entre croissance et inégalité, la relation entre croissance et concurrence, les modèles classiques, néoclassiques n'ont rien à dire, puisqu'ils supposent la concurrence parfaite. Donc, le modèle schumpeterien, lui, peut dire des choses. Il peut notamment expliquer, eh ben voilà, pourquoi l'Argentine a commencé à se développer, elle s'est arrêtée. Pourquoi le Japon a une période de croissance forte et après s'est arrêté. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la stagnation séculaire et le débat sur la stagnation séculaire ? Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut comprendre, en tout cas, on donne des clés pour analyser. Ça ne veut pas dire qu'on explique tout, mais on a déjà des clés pour analyser ces questions qui sont des questions fondamentales si on veut comprendre la croissance. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, donc le modèle classique, néoclassique, n'expliquait pas ce qui se passait. Beaucoup de questions étaient sur la croissance des pays, n'avaient pas de réponse dans la théorie classique, néoclassique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit il faut aller vers quelque chose d'autre. Et puis il y avait aussi, de la part des économistes du développement, par exemple, une frustration croissante que les théories classiques, on les testait sur des données de pays seulement et pas des données microéconomiques. Et la théorie schumpeterienne, ce qui est intéressant, c'est que c'est une théorie de la croissance qui se teste sur données de firmes. On fait de l'économétrie des firmes. On regarde comment différentes politiques ou institutions influent sur les incitations qu'ont les firmes à innover. Et donc, c'est devenu beaucoup plus satisfaisant. Par exemple, on peut relier la croissance au niveau d'une économie à la distribution de la taille des firmes ou à la distribution de la productivité des firmes. Tout le débat sur la compétitivité, on a compris que ce qui rend une économie compétitive, c'est la productivité des entreprises qui composent le pays. On sait que les entreprises commencent à exporter à partir d'un certain niveau de productivité. Donc il faut connaître moins seulement en moyenne, il faut comprendre la distribution de la taille des firmes et de la distribution des productivités. Donc ça, et comprendre qu'est-ce qui les fait bouger. Et là, on a vraiment besoin de la théorie schumpeterienne, vraiment, de la théorie qui dit et de comprendre aussi la dynamique des firmes, parce que la dynamique des firmes, c'est l'entrée, la sortie et la croissance des entreprises. Et donc, est-ce que par exemple, il y a des pays où les entreprises inefficaces ne sortent pas, où les entreprises efficaces ne croissent pas autant qu'elles devraient ? Et les deux sont liés d'ailleurs, et ça reflète évidemment des dysfonctionnements institutionnels, mais ça a des impacts directs sur la croissance. Et donc, il faut aller regarder au niveau microéconomique pour comprendre la croissance plus globalement. Et c'est ça que permet la théorie schumpeterienne. D'abord, il y a différentes théories de la croissance endogène. Moi, je considère le modèle schumpeterien est supérieur aux autres théories de la croissance endogène. Voilà. Et je pense que de plus en plus, il va s'affirmer comme le bon modèle de croissance. De toute façon, on sait que, par exemple, la protection des droits de propriété, c'est très important, puisque on sait que c'est les incitants à l'innovation qui sont importants. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les droits de propriété soient bien protégés. C'est important d'avoir un système éducatif et une bonne université, parce que c'est là que ça vous donne les chercheurs, ça vous donne les gens qui vont faire l'innovation. Si vous n'avez pas d'université, il n'y a pas beaucoup d'innovations qui se font. On sait que c'est important d'avoir une économie avec une macroéconomie stable. Si vous avez de l'hyperinflation, ça va bouffer vos profits de l'innovation. Donc ça, ça ne sera pas bon pour l'innovation. On sait qu'il faut des brevets, protection par des brevets qui protègent les droits de propriété. Mais aussi, on a découvert que la concurrence favorise l'innovation parce qu'on innove pour échapper aux concurrents. Ça, c'est un effet très important que dans les premiers modèles schumpeteriens ou des autres modèles ne mettaient pas en valeur, que moi j'ai mis en valeur avec d'autres. Donc la concurrence est une chose très importante. Quand vous êtes une économie de l'innovation, il faut de la destruction créatrice, donc de l'entrée et de la sortie. Il faut des marchés du travail plus flexibles, puisque les activités changent. Donc il faut pouvoir embaucher dans de nouvelles activités, peut-être ne pas garder quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à une nouvelle activité, le reformer. Donc ça aussi, c'est très important. On a regardé aussi le rôle des politiques macroéconomiques. C'est bon d'avoir des politiques contracycliques, c'est-à-dire on baisse les taux d'intérêt en récession et on les augmente en expansion parce qu'il faut que les firmes puissent maintenir leurs investissements en recherche-développement le long du cycle. Donc c'est un peu tout ça qu'on a reconsidéré à la lumière du modèle schumpeterien. Non, en tout cas, je crois qu'il y a des grandes questions qui se posent et maintenant, on a le moyen de faire... C'est surtout l'idée de dire qu'il faut le dialogue entre la théorie et l'empirique. Je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qui nous distingue, nous, enfin, les économistes schumpeteriens, c'est qu'on est très soucieux des données. On travaille sur des modèles et puis il y a un dialogue entre les modèles et les données. Par exemple, on voit qu'il y a un modèle, il a certaines prédictions, puis il y a des choses qui ne marchent pas sur les données. Alors on perfectionne le modèle, on dit qu'il y a différentes manières de le perfectionner et après chacune a des prédictions différentes et on les confronte aux données. Et c'est très important ce dialogue entre les données, et la théorie et l'empirique. Ça fait progresser notre compréhension des phénomènes. Donc je l'ai fait pour le lien entre concurrence et croissance. J'ai essayé de comprendre d'où venait le fait qu'il y avait un lien positif entre la concurrence et la croissance. Je l'ai fait pour la relation entre croissance et inégalité. Je l'ai fait pour essayer de comprendre pourquoi les investisseurs institutionnels ont un effet positif sur l'innovation. J'ai différentes questions comme ça que j'ai analysées et ça a été très important de faire le va-et-vient entre, entre la théorie et l'empirique pour comprendre mieux, en fait. Voilà, moi je dirais que c'est ça qu'il faut... Il faut que les théoriciens et les empiristes travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, et je dirais qu'un petit peu, il faut, je crois qu'il va y avoir des choses très importantes. Il faut aller, bon, maintenant, il y a des données qui sont disponibles. On va pouvoir parler, regarder l'effet de la fiscalité sur l'innovation. On va pouvoir suivre individuellement un innovateur, ses revenus au cours du temps. On va apprendre beaucoup de choses. On peut regarder le lien entre commerce international et innovation. Est-ce que, par exemple, il faut vraiment être une firme assez grosse pour exporter et ça a un impact sur l'innovation ou pas? La relation entre taille des firmes et nature de l'innovation des firmes, ça, c'est des choses très intéressantes. Et puis, dans l'économie du développement, beaucoup de gens qui font l'économie du développement ne mettent pas les entreprises. Et il faut mettre les entreprises au cœur du développement. Et on revient au paradigme schumpeterien, c'est à comprendre pourquoi. Est-ce que des petites entreprises peuvent survivre? Est-ce qu'elles peuvent croître ou pas? Quelles sont les entraves à la croissance d'une entreprise? Bien, c'est très différent dans un pays développé et un pays moins développé. Et quelles sont les contraintes au développement de la taille des entreprises? Et bien, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour comprendre le processus de croissance. Donc voilà, je crois que c'est là, il y a beaucoup de travail à faire. Donc les jeunes, il y a beaucoup de développement théorique à faire, mais surtout beaucoup de données très intéressantes qu'on peut explorer. Par exemple, la question de la stagnation séculaire. On dit, voilà, l'innovation accélère et on ne voit pas d'accélération de la croissance de la productivité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure derrière ça? Est-ce qu'on peut l'explorer, ce problème de mesure? Comment on peut mettre en évidence les problèmes de mesure? Et à quoi sont-ils dus? Voilà, une question fascinante.